Iowa, Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à toutes. Le Monde aujourd'hui, édition du mardi 5 septembre 2017. En direct de Washington, Idrissa Seloudia et Anne Albertson. Nous commençons par les titres.
Au Kenya, la nouvelle élection présidentielle aura lieu le 17 octobre, après l'invalidation du scrutin du 8 août dernier.
Au Gabon, un rassemblement de militants de l'opposition, de nouveau dispersés par les forces de sécurité, lundi à Libreville.
En République démocratique du Congo, le recensement des électeurs dans les deux provinces troublées du Kasaï n'a pas commencé hier.
Les attaques de Boko Haram ont fait près de 400 victimes civiles depuis le mois d'avril au Cameroun et au Nigeria, selon Amnesty International.
Washington et Séoul ont décidé de supprimer la limite de la charge des missiles sud-coréens après le dernier test nucléaire de Pyongyang.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
Au Kenya, la date du nouveau scrutin présidentiel est connue. Les électeurs retourneront aux urnes le 17 octobre après l'invalidation par la Cour suprême de la présidentielle du 8 août. Des détails avec Abdourahman Dia.
Après le coup de théâtre de vendredi provoqué par l'annulation de l'élection du 8 août dernier, la commission électorale n'a pas perdu de temps. Elle a convoqué une nouvelle élection pour, dit-elle, se conformer à la décision de la Cour suprême. Saisie par l'opposant Raila Odinga, la plus haute instance judiciaire du Kenya avait estimé que l'élection du mois dernier n'avait pas été conduite en accord avec la Constitution et que des illégalités et irrégularités avaient affecté son intégrité. La commission électorale a précisé que seul le président sortant, Uhuru Kenyatta, qui avait été proclamé vainqueur avec 54% des voix, et son principal opposant Raila Odinga figureraient sur les bulletins de vote. Les 6 autres candidats qui avaient réuni moins d'1% des voix lors de la première élection ne pourront pas se représenter. L'annulation du scrutin par la Cour suprême avait été saluée par les militants des droits de l'homme et des leaders politiques à travers le continent, alors que le scrutin avait été jugé crédible par plusieurs missions d'observation. Le président Kenyatta a quant à lui dénoncé le jugement de la Cour suprême.
Au Gabon, les partisans de Jinping rêvent d'un retournement de situation à la kényane. Un rassemblement de quelques centaines de militants a de nouveau été dispersé par les forces de sécurité lundi à Libreville. Le point avec Jean-Roger Bion.
Oui, ils étaient environ 300 manifestants vite dispersés près du QG de l'opposant alors qu'ils commençaient une marche vers l'aéroport. Le modèle kényan a fait des émules dans la galaxie Jinping, l'un des porte-parole de la coalition de la Nouvelle République, CNR, autour du candidat malheureux à la dernière présidentielle gabonaise, ne s'en est pas du tout caché, déclarant à l'AFP « Initialement, nous devions aller jusqu'au Sénat lire une motion avant d'ajouter que le Gabon, comme le Kenya, aspire à un peu plus de démocratie. » Les manifestants avaient attendu le leader de l'opposition qui ne s'est finalement pas présenté. Plus tôt dans la journée, les forces de sécurité avaient barré l'entrée du lieu initial du rassemblement, le collège de Nchorere, au centre-ville. Le ministère de l'Intérieur n'était pas en mesure de préciser lundi soir s'il y avait eu des interpellations. Le 18 août, Jinping avait appelé les Gabonais à se lever comme un seul homme. Avec d'autres opposants, M. Ping a été interdit de sortir du territoire par les autorités qui dénoncent, je cite, ses appels aux troubles à l'ordre public. M. Ping conteste la réélection de son adversaire Ali Bongo Ondimba un an après l'élection du 27 août 2016.
En République démocratique du Congo, le recensement des électeurs dans les deux provinces troublées du Kasaï, dernière étape avant la publication d'un calendrier électoral, n'a pas commencé ce lundi comme l'avaient annoncé les autorités. Selon plusieurs témoins interrogés par un correspondant de l'AFP, aucun bureau d'enregistrement d'électeurs n'était ouvert lundi à Kananga, plus grande ville de la province du Kasaï, région endeuillée par des violences depuis une année. Dans un communiqué, la commission électorale a indiqué qu'elle procédait au recrutement additionnel d'agents dans le cadre de ce recensement. Le processus de recrutement s'étend du 4 au 9 septembre, selon ce communiqué.
Toujours en RDC, les sociétés pétrolières et le gouvernement ont commencé hier des discussions pour désamorcer la crise d'approvisionnement en carburant des stations-service, conséquence de la dépréciation du franc congolais par rapport au dollar. Bakassi Koura fait le point.
La pénurie commence à se faire menaçante. Hier, dans la capitale Kinshasa, la plupart des stations Total ou Egen étaient fermées dans le quartier Gombe, selon l'AFP. Celles qui étaient ouvertes étaient prises d'assaut par des files d'automobiles dans ce quartier, moteur économique et administratif de la mégapole d'environ 10 millions d'habitants. Les sociétés achètent en effet le pétrole en dollars et le revendent en francs congolais, un franc qui a fortement perdu de sa valeur depuis le début de l'année par rapport à la devise américaine. Les prix sont réglementés à 1380 francs congolais pour un dollar. Or, ce taux est irréel car le dollar est plus haut, a expliqué Emery Mbashi Bopé, vice-président du groupement des sociétés pétrolières privées. Nous avons mis en place une commission d'experts pour proposer des solutions, a expliqué pour sa part le ministre de l'économie, Joseph Kapika, refusant de se prononcer sur la question présente dans tous les esprits, la possible hausse du carburant à la pompe. Le litre coûte actuellement un peu plus de 1700 francs congolais.
Le Burkina Faso a mis en place un nouveau dispositif sécuritaire dans la capitale Ouagadougou, théâtre d'attaques terroristes dont la dernière a fait 19 morts à la mi-août. C'est ce qu'a annoncé lundi le ministre de la Sécurité, Simon Compaoré, à l'issue d'une rencontre à huis clos avec les riverains et responsables de boutiques et autres commerces de Kwame Nkrumah, la principale avenue de la capitale. Le 13 août, cette artère a été la cible d'une attaque de djihadistes, deux assaillants ayant ouvert le feu sur un café-restaurant halal, tuant 19 personnes et en blessant 21 autres. En janvier 2016, une précédente attaque qui avait visé le restaurant Cappuccino, l'hôtel Splendide, l'hôtel Yibi et le taxi Bruce, également situé sur l'avenue Kwame Nkrumah, avait fait 30 morts et 71 blessés.
La recrudescence des attaques du groupe djihadiste nigérien Boko Haram a fait près de 400 victimes civiles depuis le mois d'avril au Cameroun et au Nigeria, soit plus du double que durant les 5 mois précédents, a annoncé mardi Amnesty International. L'ONG souligne toutefois que le chiffre réel est sans doute plus élevé, car toutes les attaques n'ont pas forcément été signalées. Bien que Boko Haram ait perdu beaucoup de terrain face à l'armée nigériane et à la coalition régionale, la région du lac Tchad reste encore volatile. Amnesty International rappelle également que la situation humanitaire est alarmante sur tous les pourtours du lac Tchad, Niger, Nigeria, Tchad et Cameroun, où 7 millions de personnes souffrent d'insécurité alimentaire.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain Donald Trump et son homologue sud-coréen Moon Jae-in ont décidé de supprimer la limite de la charge des missiles sud-coréens. Ils ont également convenu de faire pression aux Nations Unies pour des sanctions plus dures encore contre la Corée du Nord après le dernier test nucléaire de son leader Kim Jong-un. Le président sud-coréen a également demandé à l'ONU d'envisager la possibilité de bloquer les livraisons de pétrole à Pyongyang, on dit des officiels à Séoul.
La Maison-Blanche, elle, n'a pas fait état de cette requête, soulignant la menace que pose la Corée du Nord au monde tout entier. Les présidents Trump et Moon ont promis d'accentuer les pressions sur ce pays en usant de tous les moyens à leur disposition et aussi de renforcer les capacités américano-sud-coréennes concernant leurs exercices militaires conjoints. Washington va faire circuler cette semaine aux Nations Unies un nouveau projet de résolution sur la Corée du Nord, a annoncé hier la représentante permanente des États-Unis lors d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité.
C'est aujourd'hui que le président Trump va se prononcer sur le sort de centaines de milliers de jeunes immigrants arrivés illégalement aux États-Unis avant l'âge de 16 ans avec leurs parents. Mais déjà, selon le site d'information Politico, le président Trump aurait décidé de mettre fin, avec un délai de grâce de 6 mois, au programme qui permet à ces jeunes de rester aux États-Unis. Des détails avec Arzuma Compaoré.
Selon Politico, Trump prévoit de donner du temps au Congrès pour qu'il élabore un dispositif de remplacement avant l'achèvement du délai de grâce. De nombreux parlementaires du Parti républicain au pouvoir mettent en garde contre une suppression pure et simple de ce programme appelé Dreamers, créé par décret en 2012 par son prédécesseur démocrate Barack Obama. Il est prévu que Trump annonce sa décision aujourd'hui, mais selon Politico, il a déjà tranché et des collaborateurs se sont réunis dimanche à la Maison-Blanche pour préparer la suppression du programme. Intitulé DACA, Deferred Action for Childhood Arrivals, ce programme vise à sortir de l'ombre les clandestins arrivés avant l'âge de 16 ans aux États-Unis. Il concerne à ce jour quelques 800 000 personnes qui disposent ainsi de l'équivalent d'un permis de séjour pour 2 ans, renouvelable, afin d'étudier ou de travailler.
La Syrie a annoncé hier que ses forces et leurs alliés resserraient leur étau autour de Deir ez-Zor dans leurs efforts pour mettre fin au contrôle djihadiste depuis 3 ans de cette ville riche en pétrole près de la frontière irakienne. De son côté, l'Observatoire syrien des droits de l'homme, basé à Londres, signale que les forces du régime syrien sont à moins de 10 km d'une base aérienne gouvernementale dont elles tentent de briser le siège. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Blanche sonne.
Au Kenya, Equity Bank, l'un des groupes bancaires les plus importants à Nairobi, a accordé 547,2 millions de dollars de prêts via le mobile depuis son lancement en mai 2014. Selon l'agence Ecofin, cette plateforme a traité près de 7,5 millions de demandes d'avances financières. Les prêts accordés via Equitel commencent à partir de 100 shillings Kenya jusqu'à 3 millions de shillings Kenya avec un taux d'intérêt de 1,16% par mois. La période de remboursement est étalée sur 12 mois. Le groupe marocain Atijariwa Bank et Sumitomo Corporation Europe ont annoncé la conclusion des mémorandums d'entente en vue de développer des opérations d'envergure en Afrique. L'objectif est de développer un partenariat à long terme et notamment de coordonner diverses opérations en Afrique dans les secteurs de l'automobile, des infrastructures, de l'industrie, de la chimie, des mines et de l'agriculture. Au Nigeria, la Direction générale des impôts a enregistré des recettes fiscales estimées à 5,8 milliards de dollars entre janvier et juillet 2017. Selon APA News, un rapport de la FIRS donne des prévisions fiscales pour l'année 2017 qui sont estimées à 11 milliards de dollars avec des recettes pétrolières contribuant à hauteur de 5 milliards de dollars. Le document indique également que la FIRS a beaucoup misé sur l'innovation technologique pour atteindre des résultats et s'assurer de la rapidité et de la transparence des opérations de collecte des taxes.
À présent, les sports avec Yakuba Ouédraogo. Yakuba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Le Cameroun ne sera pas au rendez-vous en Russie l'an prochain.
Et oui, le champion d'Afrique en titre a été éliminé après son match nul concédé à domicile hier, 1-1 devant le Nigeria lors de la 4e journée des éliminatoires du Mondial 2018. Facile vainqueur vendredi dernier 4-0 à Ouyo, les Sapeurs Eagles doivent encore patienter pour valider leur ticket. Un nul leur suffira le 7 octobre face à leur dauphin actuel, les Chipolopolo de la Zambie, pour voir la Russie l'été prochain.
Dans ce même groupe, la Zambie se déplace aujourd'hui en Algérie.
Tout à fait, les Fenech veulent finir la tête haute, eux qui ont été défaits 3-1 samedi dernier par les Chipolopolo et qui n'ont qu'un seul point après 3 journées. La Zambie, elle, espère toujours et tentera de mettre toutes les chances de son côté et cela passe par une victoire nécessairement.
Mission de récupération de la première place du groupe A pour la RDC.
Effectivement, les Léopards n'ont pas d'autre choix que de gagner s'ils veulent reprendre la tête du groupe A ou à défaut recoller avec la Tunisie qui totalise 9 points alors que la RDC reste à 6 points après sa défaite samedi dernier 2-1.
Choc retour du duel ouest-africain à Ouagadougou entre le Burkina et le Sénégal.
0-0 au match aller à Dakar. Tout reste possible dans ce groupe D, dominé par le Burkina Faso avec seulement 5 points. Les Lions de la Teranga, eux, sont à égalité avec l'Afrique du Sud, 4 points chacun. Justement, l'Afrique du Sud reçoit le Cap-Vert à Douban, l'occasion de reprendre sa revanche après la défaite 1-2 à Praia.
D'autres matchs également aujourd'hui.
L'Égypte va essayer de reprendre seule la tête du groupe E lors de la réception de l'Ouganda, pendant que le Ghana cherche sa rédemption à Brazzaville devant le Congo. La Côte d'Ivoire veut confirmer face au Gabon à Boaké après son succès 3-0 à Libreville. Le Mali, de son côté, attend une réaction de ses aigles, laminés 6-0 par le Maroc.
Nous changeons de compétition pour parler du CHAN Kenya 2018. la CAF a annulé une nouvelle mission d'inspection.
Oui, Idrissa, une nouvelle fois, la CAF a reporté une mission d'inspection pour évaluer l'état d'avancement des travaux du CHAN Kenya 2018. Le Kenya est en retard sur les travaux et l'annulation de l'élection présidentielle dans le pays en fin de semaine dernière ne devrait pas du tout aider. Depuis de longues semaines, les médias évoquent un retrait de l'organisation au pays. Le Maroc est en pôle pour le remplacer.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sidoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Mali, le président Ibrahim Boubacar Keïta, arrivé au pouvoir le 4 septembre 2013, entame la cinquième et dernière année de son mandat. Il a placé la célébration de cet anniversaire sous le signe de la paix au Mali. Mais pour les Maliens, selon notre correspondant sur place, c'est sur ce plan qu'il a échoué. De Bamako, Kassim Traoré.
En 2013, 77% des Maliens ont voté pour Ibeka afin qu'ils puissent trouver une solution à la crise que connaît le nord du pays, surtout faciliter le retour de l'État à Kidal. 4 ans après, les Maliens jugent leur président.
Moi, je me nomme Mamadi Diko. Moi, je vois vraiment le village, le juge très mitigé, très mitigé. On voit depuis la signature de l'accord pour la paix et la réconciliation, l'accord n'est pas en bonne application. Kidal n'est pas dans le giron de la République. On fait croire chaque jour qu'après la signature de tel papier, tel et tel accord, on aura la paix. Jusqu'à présent, on n'arrive pas à avoir une paix durable comme on espère. Sur le plan sécuritaire, jusqu'à présent, ça ne va pas. Et l'année décrétée par le président de la République de lutter contre la corruption a été, comme on le voit, ça n'a pas marché.
Dans les facultés de l'université de Bamako, les étudiants trouvent que les 4 ans d'Ibeka ont été caractérisés par une mauvaise gouvernance.
Je m'appelle Fakoumata Koulibaly. Je pense que les 4 ans du président de la République, ça n'a pas été à hauteur de souhait. C'est une déception totale, voir qu'il n'a pas été vraiment à la hauteur des attentes de sa population. Une mauvaise gouvernance à la totale.
Pour moi, Ibeka, c'est le Malien même qui a voté Ibeka. Auparavant, quand on était venu ici au Mali, les Maliens étaient bien, sécurité. Maintenant ici, les choses s'augmentent. Il n'y a pas de bon salaire, école. Ibeka, il peut regarder ça quand même.
Les 4 ans d'Ibeka ont été marqués aussi par plusieurs affaires de détournement, comme l'achat de l'avion présidentiel, la surfacturation dans l'achat des armements militaires. Mais grâce à la mise en garde du FMI, le pays s'est ressaisi.
Bon, moi, c'est Django Koulibaly. Par exemple, dans le domaine de l'amélioration de l'économie malienne, vraiment, des efforts ont été fait. Mais on sait quand même que dans le domaine des finances, de l'économie, des efforts ont été réalisés. Dans le domaine de l'agriculture, je pense, à mon avis, beaucoup des efforts ont été faits dans ce domaine aussi. Il a décidé de louer les 15% du budget du Mali à l'agriculture. Et ces efforts sont en train de se réaliser sur le terrain.
Sur le plan militaire, il y a eu des équipements pour les soldats maliens. Par contre, les Maliens ne sont pas contents de leur justice.
Moi, je m'appelle Gabriel Tchénou. Pendant ces 4 années d'IVK, on a senti que l'impunité a pris l'ascenseur et la justice a essayé à un moment donné de manifester sa bonne volonté quant à comment faire face à cette injustice, à cette impunité. Malheureusement, ces attentes n'ont pas été comblées. Sur le plan de la sécurité, des efforts ont été faits dans le cadre de la formation des troupes. Des équipements ont été fournis aux éléments de la sécurité.
Dans un entretien sur la télévision nationale, le président Ibeka dit que la paix est lente à s'installer. Et le Mali en paix, selon lui, passe par l'investissement au sein de l'armée et la revalorisation de l'agriculture. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Restez branchés 24h/24 sur VOA Afrique à Bamako, au Mali, sur 102.0 FM.
En Côte d'Ivoire, les populations de Kadiola vivent toujours dans la peur après l'évasion de près de 95 personnes de la prison de cette ville. John Lyndon a joint un habitant de Kadiola qui a requis l'anonymat.
Nous ne pouvons pas comprendre que Kadiola étant une région comme toute autre, avec une prison qui a vraiment une sécurité aux abords. Et les personnes se sont évadées sans toutefois qu'ils ne passent par la toiture ou perforer des murs. Et le constat est amer, la population y est là, on est dans une suspense. On ne sait pas exactement où sont parties ces personnes évadées. Certaines personnes nous informent qu'ils sont à la recherche de cette personne évadée. Il se pourrait que certains soient retrouvés, mais pour l'instant, nous sommes toujours dans une suspense. On attend que les autorités arrivent officiellement à nous définir les circonstances effectives de cette évasion.
Justement, est-ce qu'au niveau de la ville, il y a des dispositions particulières qui ont été prises en termes de sécurité?
Pour l'instant, le calme y est revenu. On arrive à vaquer à nos occupations, mais nous sommes toujours dans une discours de peur.
Des prisonniers qui s'évadent en Côte d'Ivoire, c'est un phénomène qui prend de l'ampleur. Est-ce que vous pouvez savoir pourquoi?
Bon, je peux pas, effectivement, en tant que juste un citoyen, connaître exactement pourquoi il y a de l'ampleur pour des personnes qui s'évadent dans les prisons en Côte d'Ivoire. On ne sait pas. Mais pour l'autre, en ce qui nous concerne, nous, à Katoula, ici, ce qui s'est passé, vraiment, c'est bizarre. Nous ne savons pas. On se pose des questions, on n'arrive pas à trouver la réponse. Les autorités doivent véritablement mettre un système pour pouvoir mener une réflexion, ou s'il faut même créer un colloque pour voir exactement quel est le problème des évasions en Côte d'Ivoire? Est-ce que la sécurité est effectivement assurée au niveau des prisons? Est-ce que le personnel est en nombre suffisant? Est-ce qu'il y a une qualification pour ces différents prisonniers qui viennent? Parce qu'aux dernières nouvelles, on nous aurait dit qu'il y aurait des prisonniers qui venaient d'Abidjan et qu'on a pu mettre dans la prison civile de Katoula. Et aujourd'hui, on ne sait pas si c'est ces nouveaux venus à la prison civile de Katoula qui ont effectivement pu organiser cette situation. Vraiment, nous ne savons pas. On attend toujours que les gens arrivent à nous situer.
Un habitant de Katoula, joint en Côte d'Ivoire par John Linden.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, c'est bien sûr VOA Afrique, 24h sur 24.
Nous vous le disions en première partie, les 5 derniers mois ont été meurtriers au Cameroun, particulièrement au Cameroun et au Nigeria. Amnesty International a documenté au moins 381 civils tués par Boko Haram. La recrudescence des attaques a fait grimper le nombre de victimes et a aggravé la situation humanitaire. Eric Manirakiza a joint en Italie la chercheuse d'Amnesty International dans la région du lac Tchad, Laria Allegrozzi.
Il y a eu effectivement une intensification des attaques et des attentats suicides de la part de Boko Haram dans toute la région du lac Tchad et en particulier dans l'extrême nord du Cameroun et dans le nord-est du Nigeria, avec une conséquente et assez préoccupante aussi augmentation des morts parmi les civils. On a observé plus de 30 attentats suicides dans l'extrême nord de ce pays. Pendant une saison des pluies, il y a toujours une période très favorable pour Boko Haram pour mener ses attaques, mais qui au même temps a été absolument très meurtrière pour les populations civiles.
Pourtant, il y a beaucoup de moyens qui sont déployés pour vaincre Boko Haram. Est-ce que ce groupe djihadiste est devenu plus puissant que les armées de la région?
Les armées de la région ont effectivement mené des efforts très importants pour pouvoir lutter contre les insurgés dans la région du lac, aussi à travers une force multinationale. En même temps, il faut observer le déplacement des combattants de Boko Haram de la forêt de Sambisa au Nigeria jusqu'au mont Mandara au Cameroun à la suite des opérations conduites par l'armée nigériane en décembre 2016 pour vider la forêt de Sambisa, qui était le quartier général de Boko Haram et qui demeure un des endroits les plus importants pour les insurgés, peut expliquer en partie les regains des attaques au Cameroun.
Et comment se présente la situation humanitaire?
L'intensification des attaques de Boko Haram a poussé des milliers de personnes à fuir leurs maisons et les agences humanitaires ne peuvent pas arriver partout, surtout dans les endroits les plus isolés, dans les zones les plus reculées où les gens se sont déplacés. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui restent dans la brousse. Il y a des gens qui ont tout perdu, leur maison, leur famille, des enfants qui ont été privés de l'école, des infrastructures qui ont été détruites, y compris des écoles, des hôpitaux. Et il y a également des centaines de personnes et surtout des jeunes qui ont été enlevés, qui ont été recrutés par force par Boko Haram. femmes, le recrutement des enfants soldats et l'utilisation des mineurs, notamment des filles, pour mener des attaques suicides. Il faut dire vraiment l'utilisation des enfants comme arme de guerre.
La région du lac Tchad peut-elle être vivable un jour?
Stabiliser la région du lac Tchad va demander des efforts conjoints de tous les pays de la région, bien sûr, et aussi l'appui de la communauté internationale pour adresser les causes les plus profondes de ce conflit.
C'était la chercheuse d'Amnesty International, Laria Allegrozzi, jointe en Italie. Faut-il déployer des enquêteurs de la CPI au Burundi? Ce lundi, les Nations Unies ont lancé un appel à la Cour pénale internationale pour qu'elle enquête sur des crimes contre l'humanité commis, selon elle, par les autorités au Burundi. Réaction immédiate de Bujumbura qui dénonce un complot occidental qui, je cite, « restera sans effet ». Au micro de Bagasikura, réaction de Louis Michel, ancien ministre belge des Affaires étrangères et responsable humanitaire de l'Union européenne.
Il est impensable de laisser Nkurunziza continuer son œuvre de tyran. Il y a eu des morts, on a fait disparaître des jeunes et ça continue. En fait, c'est la terreur au Burundi. C'est absolument scandaleux. La vérité, c'est que Nkurunziza veut absolument mettre à mal, il l'a déjà fait d'ailleurs, les accords d'Arusha. J'étais moi aux accords d'Arusha avec Clinton et Mandela. Donc je sais parfaitement ce qu'il y a dans ces accords. Et aujourd'hui, M. Nkurunziza ne veut plus respecter ces accords. Il veut avoir absolument les coups d'œil franches et toute la liberté voulue pour asseoir, je dirais, éternellement son pouvoir. C'est absolument scandaleux et je crois que la communauté internationale, les Nations Unies, ont raison d'exiger maintenant, il faut être extrêmement ferme, qu'il y ait une véritable enquête sur ce qui se passe avec les droits de l'homme au Burundi aujourd'hui.
Bujumbura parle de complot des Occidentaux.
Vous savez, M. Nkurunziza, moi j'ai déposé une résolution naturellement dénonçant ses agissements au Parlement européen. Il s'est permis d'envoyer une lettre au président Schulz à l'époque pour qu'il me rappelle à l'ordre. Vous imaginez quelle conception de la démocratie M. Nkurunziza a. Il n'y a pas de complot de la communauté internationale. Il y a simplement que la communauté internationale assiste. Moi, je trouve, de manière un peu trop passive, à ce qui se passe au Burundi. M. Nkurunziza recrée les conditions d'un génocide au Burundi. Et je pèse mes mots. Je pèse mes mots. Alors, moi, je ne souhaite pas que la communauté internationale doive assumer la responsabilité morale qu'elle a dû assumer, qu'elle assume encore aujourd'hui, en étant passif par rapport à ce qui s'est passé, si vous vous rappelez, en 1994 au Rwanda. J'ajoute d'ailleurs que l'Union africaine aussi devrait être un peu plus active dans le sujet. Ça la concerne au premier chef aussi. Et donc, s'il y a bien une mesure que je soutiens, c'est celle-là.
Alors, en ce moment, le processus du dialogue est en panne. Comment vous voyez la sortie des crises, alors?
Bien sûr qu'il faut relancer le dialogue. Mais pour faire le dialogue, il faut être à plusieurs. On ne peut pas faire le dialogue tout seul. Nkurunziza n'a en fait qu'une seule visée. C'est de faire semblant qu'il y a un dialogue. Il n'y a pas de dialogue. Il ne veut pas de dialogue. Donc, il faut lui imposer un dialogue. Et je pense que, par exemple, en lui coupant des soutiens, c'est déjà fait au niveau de l'Union européenne, puisqu'on continue à financer des projets humanitaires, mais il ne bénéficie plus, par exemple, d'aide budgétaire directe. Donc il faut absolument lui mettre une pression maximale pour qu'il comprenne que la seule voie de sortie, c'est le dialogue.
C'était Louis Michel, ancien ministre belge des Affaires étrangères et responsable humanitaire de l'Union européenne.
Hello, hello, I'm your English host. Je suis votre présentatrice pour l'anglais, Michelle Joseph, ici au micro. Voulez-vous mieux parler l'anglais? C'est fait. Retrouvez-moi tous les soirs à partir de 21h, temps universel, sur VOA Afrique et sur notre site internet à www.voaafrique.com. Cliquez sur Apprenez l'anglais pour retrouver les leçons de tous les jours. Et les week-ends sur ondes courtes, le samedi et le dimanche à 20h TU. Pour mieux parler l'anglais, to speak better English, ne ratez pas English USA sur VOA Afrique.
Oh.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au menu, antenne libre, des sujets, débats. RM Show donne la parole à nos auditeurs. En direct sur Facebook Live, VOA Afrique. Participez en appelant au 001-202-205-2633. C'est au 001-202-205-2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Greg Burns. Merci à Anne Albeson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.